Bonjour, ici Éric Gagné, Game Over. Vous écoutez Les Buts Remplis. En way down!
Ah ouais, donc, oui, le grand gaucher, encore de la grande visite aujourd'hui.
Wow, hein, une autre émission bien remplie avec beaucoup de gens qui vont joindre à nous. On a beaucoup de sujets variés aujourd'hui. On commence tantôt, là, dans quelques secondes, avec Patrick Scalabrini, entraîneur gérant des Capitales, mais aussi gérant d'Équipe Québec, là, qui s'en vont jouer, en fait, commencer leur saison aux États-Unis dans les prochains jours. On a Josué Pellé, notre chroniqueur, qui va sa première chronique officielle. C'est comment ça s'appelle, Ben?
La parole de Jésus. J'ai même composé un petit jingle pour te présenter.
Ça. T'es sérieux, bon? J'ai hâte de voir ça. On va aussi parler actualité de Vladimir Guerrero. On va aussi parler des Giants de San Francisco. Et on commence tout de suite avec Patrick. D'ailleurs, j'ai une question là, qui va faire rêver les gens là, pour Patrick tantôt. Mais on commence avec en l'amenant avec nous. Salut Patrick Scalabrini, ça va bien?
Ça va très bien, merci vous-même.
Yes. Patrick, dans le fond, c'est dans les prochains jours que vous allez aux États-Unis amorcer votre saison dans la Ligue Frontier avec Équipe Québec, équipe basée un peu sur avec les Capitales, mais je veux dire, on amène des joueurs aussi des Aigles de Trois-Rivières, par exemple, tout ça. Comment ça se passe, la composition de cette équipe-là, et c'est quoi les prochains jours pour le camp d'entraînement?
Ben en fait, pour ce qui est de la composition des joueurs, c'est un petit peu compliqué là, parce que tu sais, on est parti à la base de notre alignement que les Capitales on avait bâti là, au fil des mois, en fait, au fil des ans là, avec la pandémie, c'est ça un petit peu compliqué de ce qu'on avait préparé pour 2020 aussi. Tu sais. Fait que c'était ça à la base. Là, devant les problèmes auxquels on a fait face, ben avec la frontière et tout ça, là, ça a été compliqué pour les trois équipes canadiennes. Donc, les deux autres ont décidé de sans dire se joindre à nous. On fait une équipe avec un peu mon alignement initial. Et de là, on rajoute tous les Québécois canadiens de calibre professionnel à notre équipe. Donc, c'est de finaliser le tout, c'est de compléter une équipe qui se veut, qu'on souhaite compétitive là, avec les Canadiens, les Québécois des autres formations. Le but principal était d'offrir une opportunité aux joueurs canadiens, aux joueurs québécois de jouer pro cette année. Parce que s'il n'y a pas d'autres équipes canadiennes, on ne peut pas se retourner de bord un joueur canadien puis se trouver un contrat ailleurs à cause de questions de visa de travail qui prendrait trop de temps.
Tu parles des Québécois, Pat. C'est drôle, cette semaine sur Twitter, j'ai juste écrit « OK, Équipe Québec, j'ai hâte de voir combien il va y avoir de Québécois. » Puis il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a répondu « Ça change quoi, le nombre de Québécois? » Mais moi, j'étais comme pas, genre, je veux challenger, genre, OK, Équipe Québec, il faut qu'il y ait des Québécois qui soient représentés. J'étais comme plus juste curieux de savoir combien il y a de Québécois, là. Fait que ça change quoi? Ben, je sais qu'il y a David Glaude qui va être dans l'équipe, ou du moins au camp d'entraînement. C'est qui les Québécois qui sont en lice pour faire l'équipe? J'imagine que les Vincent Ruel, Danny Paradis-Giroux vont être invités au camp d'entraînement, peut-être?
Ben en fait, il y a quelques volets à ta question et à ton questionnement. C'est tout à fait légitime de se questionner à ce niveau-là. Moi, je suis un Québécois. J'étais à l'universitaire aux États-Unis et tout ça. Et j'étais un bon joueur universitaire. Par contre, je n'aurais pas été repêché dans les 10 premières rondes. Puis, s'il n'y avait pas eu les Capitales, pour me donner une chance comme ça, tu sais, j'aurais jamais joué pro, j'aurais jamais pu vivre toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie. Tu sais, fait que, je crois beaucoup à donner cette opportunité-là. Ceci dit, puis je le mentionne toujours depuis le début, on veut des joueurs, donner la chance à des joueurs canadiens, des joueurs québécois de calibre professionnel. Tu sais, c'est pas pour un joueur, on veut faire une ligue senior. Tu sais, on veut aller gagner des matchs là-bas puis pousser pour avoir une chance de jouer en série. Voilà, c'est en deux volets. Donc, oui, je vais donner une opportunité vraiment aux joueurs qui le méritent de tenter leur chance. Donc, oui, on va essayer d'ajouter quelques noms québécois à notre puzzle, à notre casse-tête. Ceci dit, ça va être vraiment à eux de mériter leur poste et de prouver qu'ils sont capables de jouer à ce niveau-là. Donc, en ce moment, David Glaude et Jonathan Lacroix, qui étaient déjà sur mon alignement, que je vois dans l'alignement de départ, sauf sous-performance, quelque chose comme ça, évidemment. Donc, là, ça.
Moins d'une catastrophe.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je viens à ça, je vais donner des chances, des opportunités à plusieurs joueurs. Je ne sais pas où on va être dans deux semaines, mais ceux qu'on va tout le moins étudier, regarder, donner une chance. Tu les as mentionnés un petit peu, Vincent Ruel, Danny Paradis-Giroux, oui. Des gars qui étaient sur l'alignement de Trois-Rivières, donc Louis-Philippe Pelletier, qui a une solide chance de se tailler une place également. Excuse-moi. Lanceur gaucher, on a Miguel Cienfuegos, on a David Gauthier qui va tenter leur chance également. Sam Bellis-Springer qui a un parcours intéressant et différent qui m'a impressionné lorsque je l'ai vu lancer récemment. Donc, c'est je ne peux pas en oublier, je veux s'en rendre. Mais...
J'ai cru comprendre que Raphaël Gladue, lui, c'était plus difficile. Il avait décidé de peut-être pas joindre ou de ne pas essayer de faire l'équipe.
Ouais, Gladue ne sera pas avec nous. Puis, encore une fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Là, on a tous vraiment hâte de voir du baseball, de jouer au baseball, mais c'est un solide sacrifice là, qu'on demande à des joueurs. Fait que la réponse a été presque unanime des gars qui s'ennuient du baseball, qui ont le goût de jouer à balle, qui ont le goût d'aller tenter une expérience comme ça. Gladue est dans un endroit différent dans sa vie, puis je le laisserai répondre à ce genre de questions-là. Mais c'est pas une aventure qui l'intéressait particulièrement, puis c'est correct. Fait que on va vraiment donner la chance à ceux qui ont le goût d'essayer ça, qui ont le goût de se faire une place dans ce milieu-là.
Tu parlais de sacrifice. Ça va être quoi votre plus grand défi, justement? En fait, ça va être d'être loin des vôtres, là, mais parce que vous allez aux États-Unis pendant c'est peut-être une bonne partie de l'été. Ça va être quoi votre plus gros défi?
Encore une fois, moi, personnellement, ça va être de m'éloigner de ma famille, de mes enfants pendant un long laps de temps, puis on ne sait pas combien de temps. Fait que si c'est loin ou pas, on espère que ça ouvrirait, mais ça ouvre pas, ça va être compliqué, là. De revenir avant septembre. Fait que pour moi, c'est plus ça. Ensuite de ça, au niveau équipe, au niveau joueur, au niveau d'essayer de remporter des matchs, c'est le fait qu'on va toujours être dans nos valises, on va toujours être visiteur. Le classique que tu dis année après année dans ta saison, c'est on espère jouer pour 500 ou à peu près sur la route puis gagner nos séries à la maison. On est dans le trouble si on fait ça. T'sais. Fait que là, on est toujours sur la route. Faut aller gagner nos séries là-bas, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, c'est de garder les gars ensemble, puis unis, puis malgré les défis qu'on va affronter, il n'y aura pas le fait de dire, on l'apprend pour l'équipe, c'est un long week-end, c'est un long voyage, on dort pas beaucoup, tout ça, mais dans la semaine prochaine, on va être à la maison dans nos affaires, tu l'as pas celle-là pour rassurer les gars. Fait que c'est vraiment le cliché, y aller au jour le jour, essayer de gagner nos séries sur la route, triper en découvrant des nouvelles villes, puis ça va être, je vais jouer beaucoup sur le... Hey, on est chanceux, l'année passée, personne n'a joué, il y en a plein qui sont privés de cette opportunité-là, cette chance-là de jouer au baseball professionnel, fait que, profitez-en, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place en ce moment. On va essayer de triper ensemble dans ce sens-là.
Tu parles, Pat, de découvrir des nouvelles villes. Là. Je vais t'envoyer une question un peu champ gauche. Là, puis après ça, Sylvain, tu auras l'occasion d'y aller avec la vraie question. Mais tu connais-tu ça, le jeu Les Aventuriers du Rail? C'est comme avec des trains. Là. C'est ça, il y a comme plein de noms de villes. Puis des fois, tu sais, South Bend, puis des villes Gateway. Puis c'est tout le temps celui qui a visité le plus grand nombre de villes différentes qui start la game, tu sais, c'est des règlements de base. J'ai l'impression qu'en plus de ton parcours déjà, à la fin de l'été, si tu joues à ce jeu-là, c'est sûr que tu startes la game.
J'aime mes chances. Il me semble que j'en ai vu beaucoup déjà dans ma vie, dans ma carrière. Fait qu'il y en a quelques-unes là-dedans que j'ai pas vu, puis que j'ai hâte de voir ça. tu me présenteras le jeu là, on essaiera ça.
C'est bon.
Moi, j'ai une question parce qu'en lisant sur toi, Patrick, cette fin de semaine, j'ai découvert que tu avais joué 3 ans à Hawaï. Et pour vrai, ça fait rêver un peu n'importe quel joueur de baseball d'aller jouer là-bas avec la température, les décors incroyables. Parle-moi de ça, comment ça s'est passé là-bas, ça devait être incroyable.
Tu sais, Hawaï, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, c'était ça. Oui, c'est paradisiaque, l'endroit, les paysages et tout ça, mais plus que ça, c'était vraiment les gens. Les gens, ils étaient tellement accueillant et sympathique pour moi, pour nous, mais c'est pas juste parce qu'on était des athlètes de leur université, pas juste cette fierté-là. T'sais, mon père, qui était venu me visiter, il était un petit peu plus vieux, mon père ne parle pas un traître mot en anglais. T'sais. Fait que j'aime raconter cette histoire-là pour démontrer un peu leur comment ils sont là-bas. T'sais. Je lui avais montré à dire « UH », retourner à l'université d'Hawaï, c'est ce qu'il leur disait, « UH », dans quelle direction aller, parce que puis par moment, il partait prendre des marches. fait que là, il y a une année, il disait que je me suis perdu. Je ne savais pas j'étais où. Il marchait sur le bord du chemin, il se grattait la tête, il cherchait des affaires. Il a dit qu'il y a 5 autos qui sont arrêtés. 5. Pas un après l'autre, mais pas « Monsieur, êtes-vous perdu? Est-ce qu'on peut vous aider? » Les gens, ils étaient là pour aider du début à la fin. Puis moi, je suis parti tout seul. Je suis le seul Canadien. En fait, je suis le premier Canadien de l'histoire à jouer pour ce programme-là. Puis, tu sais, ils m'ont pris sous leur aile. J'allais manger dans les familles, faire des louanges. J'étais accueilli partout. Les gens étaient vraiment incroyables. Tu sais, je ne veux pas nous faire donner une trop longue réponse, mais bref, cette portion-là m'a impressionné. Après ça, c'était le rêve d'un petit cul. Je suis parti jouer au baseball. Évidemment, on allait en avion à tous les matchs à l'extérieur. C'était tous des matchs de conférence. On partait en Californie, on partait au Texas. On faisait nos séries de matchs là-bas. Mais à domicile, nos matchs sont tous à la télé. Il n'y a pas de sport professionnel là-bas. Fait qu'on était quand même... C'était quand même big sur le campus, c'est ce qu'il y avait de plus gros. Fait que c'était vraiment hot. J'ai 100% adoré mon expérience de A à Z.
L'accueil, je ne suis pas surpris parce que c'est l'aspect insulaire. Tu vas aux îles de la Madeleine, tu vas, c'est des endroits que tu peux pas arrêter là en passant. Il faut que tu prennes la décision d'aller là. Puis on dirait que c'est dur à expliquer, mais on dirait que les gens qui vivent sur une île dans la vie sont tellement, tellement heureux que t'aies été les visiter. Fait que j'imagine que c'est ça un peu qui explique l'accueil là, à Hawaï. On va faire rentrer Ozoué dans pas long. Mais avant de terminer, je me demandais juste, y avait-tu un conflit d'horaire, mettons, avec, tu sais, je sais que c'est les qualifications olympiques en mai en Floride. Y a-tu des joueurs de l'équipe Québec, genre Dalton Pompey, qui a été demandé pour participer aux qualifications olympiques en Floride ou quelque chose? Y a-tu des discussions? Ça brasse-tu un peu ou c'est pas si pire?
C'est pas si pire. Puis en même temps, j'avais une bonne idée là, avant d'entrer dans tout ça. Là. J'ai parlé à Greg Hamilton une couple de fois pour voir qui était un peu sur son radar. Mais oui, c'est une grosse problématique pour commencer la saison comme ça sur la route avec nous, parce qu'on c'est pas juste Team Canada. Là, mon catcher partant, qui était une grosse pièce de ce qu'on bâtissait, Ruby Castro, a fait l'équipe portoricaine. Fait que lui, puis quitte, puis s'en va avec l'équipe portoricaine pour cette même qualification-là. On a Connor Panis qui part, évidemment, qui était dans notre alignement. J'ai pas d'indication pour ce que Pompey y soit, mais je sais que l'équipe n'est pas terminée, puis il y en a quelques joueurs sur le radar. Là. Je vais pas brûler de punch, je sais pas, on va attendre, mais je sais qu'il y a deux autres joueurs qui étaient des borderline, que si on essuie des refus là, au niveau du baseball affilié, ça se peut qu'on en perde une coupe.
Il y a un joueur que tu connais très bien qui a eu son invitation, Jonathan Marlowe, qui ressort des Boulamites, qui ressort de la retraite. Le Dominique Michel du baseball, quand on l'appelle désormais.
Le meilleur joueur de balle donnée à ce tournoi-là, je suis convaincu.
C'est excellent. Alors, on fait rentrer.
On va rentrer, oui. Yes. Hey, salut, Josué.
Tu nous entends? Josué, bien? Il est sur mute.
Ouais, voilà.
Bon. Et voilà. Ça aurait été plate, ta première chronique sur mute, hein?
Elle aurait été bonne.
Avant de laisser partir Pat, Ozoué, je t'ai demandé de préparer peut-être une petite anecdote sur notre ami Pat. Fait que je te laisse aller là-dessus. Puis Pat, ben bon courage.
Ben, écoute, premièrement, ça va être ma première année cette année comme coach en chef. Moi-même, personnellement. Fait que tu sais, Pat, toi, ça fait combien de temps que tu coaches, là, exemple, les Capitales?
En 2010, c'était ma première.
OK, donc ça fait très longtemps. Moi, j'aimerais savoir, là, c'est arrivé lorsque je jouais pour toi avec les Capitales. Tu t'es fait sortir une couple de fois. T'sais, tu t'es pogné de temps en temps avec des arbitres. Pas souvent, mais tu sais, quand ça allait arriver, ça allait arriver. J'aimerais que tu me dises, là, je sais pas si tu t'en rappelles, à Trois-Rivières, tu avais essayé de sortir le troisième but. Puis écoute, ça l'avait pris à peu près là, 20-30 secondes. Mais tu sais, on est sur le moment, puis t'es frustré. Puis là, là, tu veux vraiment là, écraser l'arbitre, là, puis t'es pas capable de sortir le troisième but. Qu'est-ce qui a passé par ta tête?
Ça a pas assez proche d'être une des pires décisions de ma vie, de m'attaquer. J'en entends parler. Je m'en vais à Trois-Rivières, puis il m'écœure encore avec ça. Tu sais, je sais pas trop pourquoi. Il y a un jeu au troisième but, évidemment. Fait que là, ça m'a paru une bonne idée. Je pense à Ricky Henderson qui vole son but, qui l'enlève, qui s'élève. Ça avait l'air facile. Toi, fait que,
ben oui.
Je prends la mauvaise décision de m'attaquer au but. Fait que là, je me penche. Puis, tu sais, je suis fâché. Tu sais, quand t'as l'adrénaline, fait que t'es fort à ce moment-là. Fait que là, je me penche, je pogne le but, je donne un petit shot, puis à rien, tu sais, il bouge pas d'un millimètre. Ah. Je le laisse là, j'ai l'air d'un imbécile encore. Puis là, je réfléchis un peu, je continue à marcher. Là, mon père m'a appris des trucs de base en construction. Fait que là, j'essaie de le faire bouger un peu. Là, je me mets à donner des petits coups de pied sur le dessus. Là, juste qu'il bouge une petite affaire. Là, je vois qu'il bouge un peu. Fait que j'ai mis toute la haine et la puissance. Penché, j'ai fait un bon geste technique, un bon squat. Là, je l'ai pris et je l'ai soulevé. Là. Vous savez, j'ai jamais été soulagé dans la vie comme le moment où le but est sorti de son trou. Ma frustration vers l'arbitre, c'est beaucoup plus soulagement d'être capable de le bouger par la suite.
Moi, cette année.
Finalement, t'avais oublié pourquoi tu t'étais fâché.
Moi, cette année, Pat, je vais me pratiquer ça. Je vais me pratiquer à Caso, m'assurer, là, dire à mon gars de terrain de s'assurer que je suis capable d'enlever le troisième but si jamais ça m'arrive. Puis, je vais m'en rappeler aussi pour ne pas le faire à Trois-Rivières. Ça n'a pas l'air facile d'enlever les buts là-bas. Donc,
rapidement.
Avant de te laisser aller, Pat, je veux juste lever ma casquette aussi. Tu sais, l'année passée, il n'y avait pas de saison, puis tu avais pris soin d'aller coacher les Alouettes de Charlebourg, tu sais, puis j'ai vraiment été charmé par ce geste-là que tu as fait, puis les kids ont dû beaucoup apprécier, puis je trouve que ça montre beaucoup ta passion pour le baseball, fait que je voulais saluer ça.
C'est bien gentil, on a eu bien du fun, puis là, on pense les avoir laissés en bonne main, fait que je pense que on va s'amuser cette année aussi, fait que,
hey, merci, Pat, d'avoir été avec nous, puis profite pleinement des derniers jours là, avec ta famille et tout. Là, c'est des moments précieux, donc ce côté-là est très important, fait que profite de la semaine avec ta famille.
Je devais faire ça. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars, c'était bien le fun. On se reprend n'importe quand.
Excellent. Merci.
On vous attend au mois de juillet à Québec.
Good, j'ai hâte.
Merci, bye-bye.
Salut, Pat.
Salut.
All right. All right.
Super entrevue, super anecdote. Pour vrai, c'est incroyable. Alors, Ben, tu avais un petit quelque chose pour la première chronique, La parole de Jésus.
Ouais, hier, j'ai eu une balle sur la tête. J'avais un entraînement avec mon équipe de balle. J'ai eu une balle sur la tête, puis je suis revenu. Fait que regarde, ça va donner ce que ça va donner. Là. Puis, Oswey, je te laisse la liberté de dire OK. Pour de vrai, fais plus jamais ça avant ma chronique, OK? Donc, ça va comme suit. C'est fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Ta chronique.
Yeah! All right, mais écoute, les gars, premièrement, je veux... ça va être la première, probablement sur plusieurs, mais je suis vraiment content là, de pouvoir faire ça. Puis, aujourd'hui, regardez, là, J'ai mis mon chandail du Canadien. J'étais un fier.
C'était trempé de sport. 100% baseball, là.
Je suis un fier partisan du Canadien. Mais écoutez, les gars, j'aimerais parler de Jonathan Drouin un petit peu. Puis je le sais que c'est un petit peu pas le bon sport, mais ça relie beaucoup les athlètes et surtout là, les athlètes professionnels, les athlètes du haut niveau là, qui seront payés super cher là, pour jouer. J'ai eu la chance de vivre 3 ans avec les Blue Jays, carrément 24 heures sur 24. Puis. Mais tu sais, même si ces gars-là là, font de l'argent là, beaucoup plus que nous autres et on croit qu'ils ont des vies complètement incroyables, mais ils ont les mêmes problèmes que nous, tu sais, de vie, de la routine, que ça peut être de famille, ça peut être d'anxiété, ça peut être de travail. Ben en fait, eux autres, c'est beaucoup plus parce que ils sont vraiment là mis sur une... où est-ce que tout le monde peut les voir, sont exposés. Donc, c'est beaucoup trop facile, tu sais, essayer de leur rentrer dedans un petit peu à gauche ou à droite. Justement, là, on en parlait cette semaine, j'en parlais beaucoup avec mes amis, là, dont Jonathan Marlowe, puis on parlait que dans toutes nos années professionnelles, on n'a jamais été dans un locker room, dans une chambre de joueurs, puis on a vu un joueur qui s'est dit avant de rentrer au match, bon, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être vraiment le plus mauvais possible. Je vais essayer là, de me faire passer dans le mythe, puis je vais faire que des erreurs ou juste lancer des balles. Donc, tu sais, on a une fierté. C'est une fierté qui est tellement grande envers ces joueurs-là. Et je trouve ça vraiment déplorable, ce qui arrive à Jonathan, parce que sans dire que c'est de la faute au public, mais c'est certain que pour lui là et sa famille, ça doit pas être facile. Tu sais, c'est quelqu'un qui travaille fort, que c'est un professionnel. Je suis pas certain là qui le Canadien en plus, ils l'ont mentionné, que ça n'a rien à voir avec des substances, là, de l'alcool ou de la drogue. Donc, c'est vraiment de la pression, de l'anxiété. Et lorsque j'étais avec les Blue Jays, là, j'ai vu quelques joueurs, je nommerai pas de nom là, mais des joueurs là qui pouvaient rester dans leur locker room, tu sais, dans leur dans la case là, pendant des heures et des heures là, juste parce que même si on dit souvent, oh, ils regardent pas les médias sociaux, puis ils regardent pas les nouvelles et tout là, c'est des personnes comme nous autres là qui vont regarder tout ce qui se dit sur eux et ça peut faire très mal parce qu'encore une fois, tu sais, c'est un show, hein. C'est pas nécessairement. Oui, c'est un job, mais c'est un show. On paye, là. On paye pour regarder les matchs, on paye pour aller les voir. Donc, je comprends qu'ils sont très. Qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ça ne donne pas une raison à nous, comme partisans, là, de carrément juste se cacher derrière un écran ou un clavier, puis seulement juste dire n'importe quoi sur les joueurs, là. Je pense que c'est quelque chose de très difficile pour les joueurs. Et comme je vous dis, j'ai pu le vivre. Et je trouve là qu'ici au Québec, là, on est un petit peu fort, surtout avec nos joueurs québécois. Là,
ouais, c'est sûr hockey, que la pression, là, pression pour un joueur de hockey du Canadien québécois avec le Canadien de Montréal, qui est un peu une religion, c'est démesuré, là, tu sais, c'est clair.
Exact. On oublie.
Tu parlais des quelques joueurs à qui c'est peut-être arrivé avec les Blue Jays. As-tu une histoire qui te vient en tête particulièrement sur un joueur?
Ben c'est certain, tu sais, je vais te donner un exemple, tu sais, quelqu'un comme José Bautista qui a tout fait pour les Blue Jays, là, tu sais, si tu penses à José Bautista, là, tu penses pas à quelqu'un qui a eu une mauvaise année, sa dernière année, tu penses à son circuit contre les Rangers,
le fameux
bat-flip, exact, tu penses à sa saison de 50 circuits, tu sais, tu penses à quelqu'un là qui a redonné l'amour un petit peu là au baseball, là, pas juste à Toronto mais au Canada. Et sa dernière année, écoute, là, c'était difficile, là. Il prenait les nerfs très souvent parce que ça venait de partout, là, de gauche et à droite. Puis, tu sais, une famille aussi, là. Sa femme en entendait parler, ses enfants. Donc, je le sais que, là, que pour José, là, c'était pas facile comme dernière année avec les Blue Jays, surtout après tout ce qu'il avait fait pour l'équipe. Donc, c'est pas des moments très faciles pour ces joueurs-là.
Non, c'est vrai, tu sais, qu'on est dur avec nos athlètes, puis si tu le dis, là, c'est possiblement en lien avec l'argent qu'ils font aussi, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui leur impose de faire cet argent-là, je veux dire, c'est le marché qui est comme ça, et si, et je pense ce qu'il faut se dire, c'est que si on était à leur place, on n'aimerait probablement pas ça non plus, se faire parler de la sorte, lire les choses qu'on lit. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un pas de recul, puis se dire, tu sais, si j'étais à leur place, j'aimerais pas ça, donc pourquoi je me permets de faire ça, alors que dans le fond, je veux dire, c'est un être humain comme moi. Et lui aussi, il y a des choses à régler dans sa journée, il y a des choses à penser, il y a de l'anxiété. Donc, peut-être prendre un pas de recul, puis se regarder dans le miroir, parce que dans le fond, on pourrait être aussi un athlète si on. Ils ont eu la chance de se rendre là, de faire l'argent qu'ils font, mais ultimement, tout le monde a droit à l'erreur et tout le monde a droit à une deuxième chance, je pense.
Absolument.
Merci aux yeux d'avoir abordé ce sujet-là. Tu sais, je pense que les gens ne seront jamais assez sensibilisés. Tu sais, c'est juste faire attention, tu sais, à ce qu'on dit. Tu sais,
mais écoute, Ben, j'ai été dedans. Là. Je peux témoigner. Là. Je l'ai vu, je l'ai vécu avec ces joueurs-là. Tu sais, je le dis souvent, j'ai vécu mon rêve qui était d'être des majeurs, mais sans la pression. Des fois, là, j'étais content d'être à l'arrière-plan. Tu sais, parce que des fois, là, c'est assez dur, là, c'est assez direct. Et on oublie que des fois qu'on est des humains puis que c'est un travail comme un autre et ils essaient de faire de leur mieux. En tout cas, je suis pas sûr que beaucoup de nous autres seraient capables de faire ce que ces gars-là font.
Toi, tu avais le meilleur des deux mondes. Il n'y avait personne là, qui te critiquait ses réseaux sociaux parce que la façon que tu avais lancé le batting practice ou si ta traduction avait été bonne ou non.
Exact, exact. Non. Les joueurs me le disaient des fois, là. Hey, come on, man. On sort un peu plus à l'extérieur aujourd'hui. OK, désolé. Mais eux autres, ils étaient capables. Ouais, ils étaient capables.
All right. Hey, on a eu une grosse semaine dans le baseball majeur. On passe au bloc Actu Melbourne.
Yes. Oui, vas-y, je te laisse aller, Ben.
Ben écoute, moi, ce qui a marqué ma semaine, puis toi, tu devais être tellement content au jouer pour Vladimir Guerrero-Fils, qui a réalisé un exploit que son père, qui est membre du Temple de la Renommée, n'a jamais réussi, c'est-à-dire 3 circuits dans un même match. Mais... tu sais, à ce niveau-là, j'ai fait mes recherches, comme qu'on dit, une phrase célèbre, c'est d'ancien en temps de COVID. Vladimir Guerrero, son père, avait quand même fait 42 fois un doublé, donc 2 circuits dans un match, donc 19 fois dans l'uniforme des Expos. Donc, c'était incroyable la carrière que Vladimir Guerrero, le père, a eue. Mais de voir le fils là, faire 3 circuits, là, 3 dans un même match contre les Nationals de Washington. En tout cas, moi, je trouve que ça a marqué.
Il y a semaine. Comme un lien, là, un peu. Hein?
Ouais, exact.
Ben, tu sais, Vlad, c'est très surprenant, en fait, ce que tu viens de me dire, parce qu'on s'entend là, que Vlad Senior était un joueur, mais en fait, il est autant de la renommée, c'est pas pour rien. Mais je l'avais dit il y a 2 ans, quand Vlad était venu ici à Montréal, là, puis il avait frappé son fameux circuit en 9e là, contre les Cards. Je me rappelle, on m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais personnellement. Puis je l'avais dit, on a quelqu'un de très spécial. On se rend pas compte, on oublie que Vladimir n'a seulement que 21 ans. On oublie que tu ne vois pas ça partout là, dans les autres équipes, des frappeurs comme ça. Et tu vois, là, je dirais qu'il est à peut-être 70% de qu'est-ce qu'il va l'être, Vladimir Guerrero Junior. Je pense que ce sera pas la dernière fois qu'il va frapper 3 circuits dans un match. Là. Je pense que ça va être, comme je le dis, ça va être quelqu'un de très spécial. Puis je pense qu'il a compris aussi qu'il faut qu'il se tienne en forme. Puis je pense que ça va lui faire du bien aussi de rester au premier but. Je pense qu'il va avoir moins de blessures et il va pouvoir se concentrer là, sur jouer un premier but très, très décent. Je pense qu'il va être quand même bon au premier but, mais surtout son coup de bâton. Puis tu peux le voir aussi, sa patience. Maintenant, il prend des buts sur balle, chose qu'il ne faisait pas avant. Ouais. Ça approuve beaucoup. De maturité. C'est très difficile de prendre des buts sur balle. T'sais, maintenant, un match, t'es 0-1 avec 3 buts sur balle, là, tu vas faire beaucoup d'argent. Tandis qu'avant, là, t'avais ça, les joueurs n'étaient pas nécessairement très contents. Donc, il prend ce qu'on lui donne, puis je suis certain là, qu'il va continuer sur cette lancée.
Ben, c'est incroyable toi, la saison morte qu'il y a eu. Hein?
Non, fou, mais c'est ça, là, toi, tu l'as connu à ses débuts. Là. C'est quoi la différence entre le Vlad qui est arrivé en arrivant des mineurs et le Vlad d'aujourd'hui? Est-ce que peut-être qu'au début, il prenait ça plus ou moins au sérieux d'être un professionnel, et là, dans la saison morte, il s'est dit non, il faut que je m'entraîne, il faut que je garde mon corps en santé, et puis là, on voit, dans le fond, il récolte les dividendes de son travail.
Bien, sincèrement, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ouais. Au baseball, c'est 162 matchs. Là. C'est beaucoup. Il faut que tu aies beaucoup de vécu. Il faut que tu te trompes beaucoup, et surtout lorsque tu es jeune. T'sais, lui, là, dans les mineurs, là, il pouvait ne pas se préparer du tout, puis il allait quand même avoir du succès. Là. C'est un talent incroyable. Là, il a juste compris, il a connu Kendrys Morales, là, il a aidé beaucoup, son père l'a aidé beaucoup. Puis maintenant, il y a des vétérans qui sont venus lui parler, lui démontrer comment ça fonctionne. Alors, c'est une question de parcours, selon moi. Il avait à le vivre et je suis content qu'il l'a vécu plus tôt que plus tard. Alors, je pense que, comme je dis, là, je pense que ça va que s'améliorer. Il va comprendre aussi là, qu'il ne peut pas prendre ça à la légère, mais il n'a jamais pris ça à la légère. Là. Je le connais très bien, là, Vlad. C'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à jouer au baseball. Vous le voyez, là, il est tout le temps en train de sourire. Il est tout le temps en train de... c'est rare qu'il se fâche. Hier aussi, là, il y a eu un strikeout. Il n'a pas chialé. La balle était quand même basse. T'sais, tu vois qu'il prend beaucoup de maturité. Puis je pense que ça va être un leader aussi là, pour l'équipe des Jays dans les années à venir.
On l'a vu sur le walk-off de Grichuk, entre autres, là, il sautait puis il pognait la tête. Là, il a de l'air à avoir du fun. Tu sais, puis,
il y a beaucoup de plaisir.
Tu parlais de Morales puis de Vlad Guerrero, mais il y a Wilton Guerrero aussi, son oncle, qui a été très bon pour Vlad Fils dans son développement en République dominicaine. Là. Wilton Guerrero qui a une école de baseball là-bas, puis il a été très bon, je sais, pour Guerrero Fils.
C'est certain, ça va être quelque chose de plus mental de son côté parce que, sincèrement, là même, lorsqu'hier, encore une fois, il a frappé dans un double jeu, la balle est sortie comme à 110 de son bâton. Et même quand il me frappe des roulants, c'est tout sur, tout sur le nez. Il est vraiment là, il est vraiment dans sa zone. Donc, je pense que, comme je dis, pour le futur, ça va être que du côté mental qu'il va continuer à s'améliorer puis à prendre la maturité.
Ouais, puis tu sais, tantôt, tu parlais de Drouin, puis je veux pas faire de lien vaseux, mais tu sais, lui aussi, là, tu sais, c'est la pression de suivre son père un moment donné. Ça aurait pu être très, très difficile pour lui, là, même dans les ligues mineures, puis arriver à baseball majeur. Fait que c'est très impressionnant ce qu'il fait. Par ailleurs, d'autres qui vivent sans pression puis qui font bien ces temps-ci, Slice et les Giants de San Francisco.
Incroyable. Je voulais absolument vous parler des Giants parce que je ne sais pas si vous avez regardé le classement ce matin, là, mais les Giants sont en tête de la division Ouest dans la Nationale. Un demi-match devant les Dodgers, un match et demi devant les Padres. Et là, je me suis demandé, mais comment on explique ça que les Giants sont là? Et là, j'ai fouillé les statistiques. Là, je vous en fais une énumération. Là. Ils ont un différentiel de plus 25. Ça, c'est 20 de moins que les Dodgers, quand même. Ils sont 10-3 à domicile, 7-8 à l'étranger. Ils sont 8-1 dans les matchs disputés en journée et 9-10 en soirée. Donc, je présume qu'ils aiment ça jouer l'après-midi. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'ils frappent beaucoup? C'est les lanceurs, mais c'est pas en attaque. Là. Ils frappent pour 220 seulement, 304 de moyenne de présence sur les buts seulement. En fait, là, les joueurs qui jouent habituellement, il y en a 6 sur 9 à peu près là, qui frappe même pas pour 235. Donc là, je me suis dirigé du côté des lanceurs et c'est là que ça se passe.
Les partants.
En fait,
les partants.
Exact, exact. Son premier
Alex chez Wood, les partants. Alex Wood, il était cœur, hein?
Ben oui, exact. Son premier chez les partants avec la moyenne de points mérités à 2,34 dans tout le baseball majeur. Son deuxième, si on amène les releveurs avec ça. Et comme tu l'as dit, là, Alex Wood est incroyable. On a Anthony Desclafani qui s'est comme trouvé une niche là-bas.
Celui
qui t'a fait mal cette semaine contre toi à Fantasy. Exact. Exact. Kevin Gausman aussi qui s'est trouvé une niche là-bas. Et on se rappelle de Aaron Sanchez. Toi, Josué, tu l'as peut-être côtoyé avec les Blue Jays qui retrouvent un peu ses marques à San Francisco. Êtes-vous surpris, vous, de voir les Giants aussi performants dans une division aussi forte?
Ben, écoute, les partants, là, tu l'as dit, sont tellement dominants. Puis, tu sais, là-dessus, il y en a un qui est sur la liste des blessés présentement, mais Johnny Cueto, il a été tellement impressionnant. Puis oui, je suis surpris parce que tous ces lanceurs-là, là, à part peut-être Gausman, là, ben moi, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi dominants, tu sais. Puis, à travers tout ça, tu connais mon amour pour les receveurs. Osoué la partage. Jamais oublier Buster Posey.
No.
C'est lui qui dirige les lanceurs aussi. Puis tu disais que les Giants ne frappaient pas, là, mais ce n'est pas le cas de Buster Posey.
Non, c'est le seul. 359.
Exactement.
359
en date de ce matin. Donc, encore une fois, la situation des Giants me permet de vanter les lanceurs partants, mais je rattache beaucoup le succès à Buster Posey qui dirige et qui a de l'expérience incroyable pour diriger cette
équipe. Qui n'a pas joué l'année passée, en plus, exact. Buster Posey. Là, donc,
tellement c'est incroyable. Impressionnant.
Ben, rappelez-vous de Jadier Molina, qui ça fait 50 000 ans, là, qui est avec Saint-Louis. Puis Saint-Louis, à chaque année, c'est toujours pareil. Bon, on va voir ce qui va arriver. Puis il se ramasse toujours dans les playoffs. Non, c'est pas nécessairement juste à cause de Molina. Mais tu sais, je te rejoins là-dessus, Ben. Là, assez certain que Buster Posey, là, c'est quelqu'un qui a gagné quand même 3 séries mondiales. C'est quelqu'un qui est capable de diriger là, des lanceurs des majeurs. Pour ce qui est de revenir des lanceurs, Aaron Sanchez, c'est mon meilleur ami après Russell Martin de tous les joueurs que j'ai connus avec les Blue Jays. Et, en fait, Aaron et moi, on fait toujours des pools fantasy de football depuis qu'on est avec les Blue Jays. Lui, c'est le président. Moi, je suis le directeur gérant. Donc, lui, il s'occupe d'absolument rien. Il fait juste mettre la brune. Et moi, je m'occupe de gérer l'équipe. Juste vous dire, l'année passée, on a gagné quand il était avec les Astros. Puis on a fait, disons que c'est pas là, 50$ comme nous on fait, là, nos fantasy.
Non,
c'est beaucoup plus, alors ils s'occupent. On a eu des très bonnes années avec les Jays, donc on a continué, on a une très belle amitié. Je suis pas surpris pour lui parce qu'il a été tellement bon. Gausman non plus. Ben Gausman, là, même quand il était avec les Orioles, il était quand même très bon. C'est juste qu'il y avait une équipe là, t'es à gauche, t'es à droite, mais sans vouloir te décevoir, je ne crois pas que les Giants vont pouvoir garder cette vitesse de croisière. Selon moi, là, les Dodgers, leurs joueurs partants vont revenir bientôt. Les Padres sont beaucoup trop forts. Alors, je pense que ça va être très bon pour les Giants que ça continue pour qu'ils puissent échanger quelques de ces joueurs-là pour se préparer pour le futur, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes là, qui prendraient Gausman, qui prendraient justement là, Aaron Sanchez demain matin.
Non, mais c'est une belle histoire là, parce que tu sais, on aime ça les belles histoires au baseball. Puis tu sais, au mois d'avril, c'est les Giants, tant qu'à moi. T'as les Royals aussi qui sont dans la centrale de l'Américaine en première place. Mais effectivement, je pense pas qu'on peut maintenir le cap pendant 162 matchs là, parce qu'on va affronter souvent les Dodgers, on va affronter souvent les Padres. Puis on n'oublie pas aussi les Diamondbacks, ils jouent pour plus de 500 aussi dans cette division. Il y a 4 équipes qui jouent au-dessus de 500, alors que dans la division S de la Nationale, ben, il n'y en a pas une. Donc, c'est incroyable. D'ailleurs, on parlera de l'Est peut-être la semaine prochaine, là, mais... non, moi non plus, je pense pas que les Giants vont maintenir.
Non, c'est Dodgers premier, Padres deuxième, c'est sûr à la fin de l'année. Mais cela dit, même si j'ai mon chandail des Athlétiques sous le dos, je dis bravo aux Giants, pareil.
Non, mais il le mérite, puis je pense que ça va donner aussi beaucoup de munitions là, aux gérants, là, puis aux directeurs gérants des Giants là, pour pouvoir continuer là, à faire une petite reconstruction là, qu'ils ont probablement là, à San Francisco. Mais en même temps, je suis content parce que tout le monde mettait là, les Padres et les Dodgers en avant. Donc, je trouve ça cool qu'il y ait un peu de pression sur les équipes là, qui sont supposées justement là, d'être en avant.
Et pour conclure le bloc MLB, Sylvain, je voulais juste prendre le temps de saluer Joey Votto qui a frappé son 300e circuit en carrière dans le baseball majeur. Donc, lui, il est au deuxième rang parmi les Canadiens derrière Larry Walker. Puis le troisième, il est un peu plus surprenant, c'est Matt Stairs, qui est troisième parmi les Canadiens dans l'histoire du baseball majeur avec le plus de circuits. Mais Joey Votto, qui est un très grand joueur canadien, puis je pense qu'il va être reconnu. Là, déjà, il est reconnu, mais il va être reconnu comme parmi les meilleurs joueurs de position canadien de l'histoire du baseball majeur.
Ouais, clairement.
Il est tout le temps ses buts. Ses présences sur les buts aussi, ça, c'est incroyable. Puis avoir eu autant de buts sur balle puis avoir frappé 300 circuits, il faut le faire. Là.
Ouais, non, puis c'est un caractère aussi. Là. C'est quelqu'un que tout le monde aime dans les majeurs. Il niaise avec tout le monde. C'est un gars que tu vois qui a beaucoup de plaisir puis qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Il est très capable de dire les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est quelqu'un de très aimé aussi là, dans le baseball majeur. Là. Les autres joueurs aussi le respectent beaucoup par sa façon d'être et aussi sa façon de frapper. C'est un gars qui s'ajuste tellement. Des fois, il coupe son bâton de ça juste parce que ça lui tente. Alors, je pense qu'il va être très reconnu, mais son record ne tiendra pas longtemps. Je pense qu'il va y avoir un autre Canadien qui va le battre quand même assez vite. Je te laisse y penser, Ben.
Tu parles-tu de Vladimir Guerrero fils?
Hey, t'as tout à fait compris.
Ce qui est né à Montréal.
Voilà, ouais, c'est ça.
Il y a un débat.
Tu sais,
c'est les types de joueurs que quand il y a un bon match, il est Montréalais. Puis quand il y a un mauvais match, on dit qu'il est Dominicain.
Les autres là-bas aussi, ils disent la même chose.
Il y en a des joueurs avec ces débats-là. T'sais, moi, quand j'entends le monde dire que Russell Martin n'est pas québécois, là, je vire fou. Pas parce qu'il est né, il est né en Ontario, mais il est pas
mal. En théorie, un franco-ontarien. Là.
Il est plus québécois que Vladimir Guerrero fils aussi, mais quand il fait trois circuits, aussi Montréalais, Vladimir Guerrero fils.
je suis certain qu'au World Baseball Classic, Vlad va aller jouer avec la République et non avec le Canada.
C'est ça, exact.
Mais on le comprend.
C'est clair.
Hey, merci, Josué. C'était super bon comme première chronique. Donc, on remet ça la semaine prochaine. Fait que il te reste 7 jours pour trouver un sujet.
Écoute, là, on pourrait en faire à tous les jours des chroniques tellement qu'il y a des bons sujets dans le baseball majeur. Il y a des belles surprises. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que les Red Sox vont se calmer un petit peu pour que nos Blue Jays puissent continuer leur remontée.
Si jamais vous avez aimé le jingle là, avant la chronique, je voulais juste vous dire qu'il est disponible sur le Ben Shiny Tunes. Donc, vous pouvez le procurer via notre site web.
Oh my God. C'est bon,
t'es lié, qu'il faut. Bye bye, je suis.
OK, salut guys. Merci. Salut. À la semaine prochaine.
Bye. Ah oh Ben, incroyable. Pitch and catch, c'est à qui?
Pitch and catch pour
toi choisir le pitch. OK, vas-y, choisis le tir que tu veux obtenir.
Écoute, on va y aller pour un changement de vitesse.
C'est vrai, on n'a pas eu cette saison encore de changement de vitesse. Changement de vitesse égale question quiz. Ouais, je vais aller voir ce que j'ai préparé pour toi. C'est sûr, j'ai préparé une question concernant un receveur. Donc, qui a été le premier receveur à frapper 200 coups sûrs en une saison? Là, avant que tu répondes, Ben, si les gens veulent mettre pause, puis envoyez-nous un courriel, si vous voulez, pour nous donner votre réponse, lesbuts-remplis@gmail.com. Et là, après ça, vous irez donner votre réponse et vous reviendrez continuer pour savoir c'est quoi le choix de Ben et ensuite, c'est quoi la réponse.
Ouais, vous pouvez aussi me l'envoyer peut-être là, par texto. Écoute, dans l'histoire du baseball majeur.
Le premier à réussir à frapper 200 coups sûrs en une saison.
Dans l'histoire.
On n'a pas besoin de remonter dans les années 50 et 40. Non, non, non. C'est plus récent que ça.
Ah, écoute,
dans les années 90, je te donne un indice.
Ben, écoute, vite de même, là. Je pense à. Il y a trois noms qui me viennent en tête vite, là. C'est Posada, Posé, puis Molina. Mais
c'est aucun des trois.
As-tu ses initiales ou c'est trop facile?
Je peux te donner. MP.
Mike Piazza.
Exact. En 1997, 201 coups sûrs. Donc,
Michel Laplante l'aurait eu parce qu'à Géopardy, il répondait tout le temps.
C'est vrai.
En plus, c'est Scalabrini qui m'a raconté cette anecdote-là en mettant par web. Fait que, ouais, Mike Piazza, ben écoute.
C'était pas un vilain receveur, on s'entend.
Lui, il avait été repêché très tard en plus. Hein?
Ouais. Fait sa carrière avec les Dodgers, les Mets particulièrement, là, c'est pas mal ça. C'est là qu'on l'a connu. Mais ouais, c'est fou quand même, là, le baseball, ça fait longtemps que ça joue. Ça, jusqu'en 1997, avec un receveur frappe 200 coups sûrs en une saison.
Hey, est dans tout, hein, parce que tu sais comment on termine le show, c'est avec la formule 66 de Derek Aucoin. Puis Derek Aucoin avait affronté Mike Piazza dans son court passage dans le baseball majeur. Ouais. Puis, fait que voilà. Ben, fin à la Formule 66. On vous rappelle que le suicide ne devrait jamais être une option. C'est des paroles sages que Derek disait toujours à la fin de ses émissions de radio. Donc, je poursuis son œuvre et je termine toujours le podcast comme ça. Donc, besoin d'aide, besoin de parler. 1-866, appel.
Yes. Alors, Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Puis, bonne semaine.
Bye, je vais penser à Mike Piazza toute la semaine. Puis cette semaine, Jays, A's, hein? Je pense que les Jays et les A's s'affrontent. Fait que moi, je vais suivre ça avec ça. Beaucoup d'intérêt.
All right. Salut, Ben.
Bye.
Entrez en champ ou en avion, en way.